Ce temps d'été, nous voulons mettre une emphase sur la prière afin qu'on puisse voir ce que le Seigneur veut nous dire aussi pour chacun de nous. On croit important de pouvoir prendre le temps en prière et surtout en tant que famille, en tant qu'Église aussi. Voilà pourquoi que depuis quelques semaines, nous mettons vraiment l'emphase sur justement la prière ensemble collective. Et ce matin, on va encore voir un autre aspect. Donc, relever les fondements de la prière dans les différents types. On connaît qu'il y a différentes façons de prier et on va regarder quelques types. Et ensuite, à travers aussi ce temps de repas du Seigneur, on va encore pouvoir louer le Seigneur, on va pouvoir encore expérimenter justement ces prières d'adoration, de confession, d'action de grâce envers notre Seigneur. Alors, on veut simplement courber notre tête maintenant encore et puis vraiment se mettre à disposition de notre Seigneur ce matin, afin que ce ne soient pas les paroles du prédicateur, mais que ce soient vraiment les paroles de notre Seigneur qui nous parle, le Saint-Esprit qui est là. Seigneur, on veut te remercier pour cette occasion que nous avons encore ce matin de venir dans ta présence et de pouvoir goûter à travers ta parole sur ton enseignement. Nous voulons que ce soit toi, Seigneur, qui nous parle directement à notre cœur, afin que nous puissions comprendre, saisir ce que tu veux établir avec nous à travers la prière. Alors, Seigneur, je te prie de bénir ce moment. Je te prie, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs, que nos cœurs puissent vraiment être réceptifs, Seigneur Jésus, à toi et qu'on puisse voir que tu as de grandes choses que tu veux encore nous donner encore aujourd'hui. Nous te remercions, te louons, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Maurice Dekker, donc, dans son livre, La prière farce ou force, il explique un peu, est-ce que c'est la prière, est-ce que c'est une force ou bien est-ce que c'est une farce dans le sens, c'est quelque chose qu'on fait de routine, va dire la chose suivante. Trop souvent, nous pensons à la prière comme un moyen d'obtenir que Dieu fasse des choses pour nous ou pour les autres. Mais le but le plus noble de la prière est d'approfondir notre relation avec Dieu. Et c'est ce que nous voulons faire justement à travers ce temps d'été, c'est de pouvoir approfondir notre relation avec Dieu, voir que la prière, oui, ce sont des requêtes, ce sont des supplications, ce sont des demandes, mais avant tout, la prière, c'est une connexion, c'est une relation qu'on veut établir avec notre Père céleste, avec le Saint-Esprit qui veut nous guider vers le trône céleste de notre Dieu. C'est vrai qu'on est souvent habitué dans nos prières et rapidement de venir dans nos requêtes. Mais on a vu à travers les différents enseignements dans ces dernières semaines que nous devons avant tout venir avec cette adoration, comme nous l'avons fait ce matin, de venir Seigneur, oui, tu es la lumière du monde. C'est vers toi que nous voulons t'adorer. C'est vers toi qu'on veut aller pour simplement dire comment tu es grand, tu es merveilleux. Nous avons vu donc dans Ésaïe 58, le verset 12, hein, vous vous rappelez que le dernier verset de ce chapitre clé pour notre Église cette année, on voit quatre mots qui commencent par la lettre R, rebâtir, relever, réparer, restaurer. Et ils sont synonymes donc de la démonstration d'une action nouvelle. Et c'est ce que nous voulons encore ce matin, comme le titre le dit, c'est relever les fondements de la prière. Nous avons, c'est sûr, des prières en tant que personne, en tant qu'Église, mais peut-être qu'on a besoin de relever ou de restaurer ou de redresser la prière afin qu'elle soit le thème central de notre vie en tant qu'Église et aussi en tant que personne. Donc, prochain dia. Donc, on a vu un des aspects de la prière qui est important, qu'on néglige, c'est justement la prière d'adoration. On a vu que l'adoration est la réponse de tout ce que nous sommes à la révélation de ce que Dieu est. On a vu que la prière d'adoration consiste à chercher la face de Dieu avant sa main. Donc la face de Dieu représente sa personne, sa présence. La main de Dieu pourvoit à nos besoins. Souvent, on va dire, Seigneur, j'ai besoin. Seigneur, aide-moi. Seigneur, je t'en supplie. Le Seigneur veut nous écouter, mais avant tout, nous avons besoin d'aller chercher la face de Dieu. Hein? 2 Chroniques 7, 14, qu'on connaît très bien. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et recherche ma face, s'il revient de ses mauvaises voies, moi je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Donc si nous cherchons sa face avant tout, il va ouvrir sa main avec joie pour nous satisfaire les besoins les plus profonds de notre cœur. Donc dans la prière d'adoration, on a cette attitude d'humilité en cherchant premièrement la face de Dieu pour l'adorer et non pour lui exposer nos besoins. John Sanders a décrit l'adoration comme, il dit, l'adoration consiste à incliner le cœur et l'âme dans un sentiment profond d'humilité et de révérence devant Dieu. L'adoration consiste à incliner le cœur et l'âme dans un sentiment profond d'humilité et de révérence devant Dieu. Donc, un autre point que nous avons énuméré de la prière fondée sur l'adoration est l'engagement à toujours commencer nos prières à partir de la parole de Dieu. Il s'agit vraiment d'un élément clé à respecter. Jésus savait que ça allait être un défi de prier. Et c'est pour ça qu'il nous a laissé un exemple, qu'il nous a montré comment prier avec la prière Notre Père. On a besoin d'être enseigné afin de comprendre de comment prier, comment que nos prières soient efficaces, que nos prières soient des temps de qualité, d'adoration, de confession et d'écoute. Voilà pourquoi qu'on a besoin aussi de le faire à travers la parole de Dieu. La parole de Dieu nous inspire, nous montre, et nous allons pouvoir voir tout à l'heure, justement, à travers ce temps encore de prière devant le repas du Seigneur, de pouvoir exprimer aussi notre louange, notre prière à travers la parole de Dieu. Vous pouvez citer un verset biblique que Dieu vous a montré ou que vous avez été touché cette semaine et qui nous permet encore plus d'adorer, qui nous permet encore plus d'être dans la présence de notre Seigneur. Dans le prochain dia, on voit justement que la première phrase de la prière de Matthieu 6, verset 9, donc ouvrons notre Bible dans Matthieu chapitre 6 et 9, on connaît très bien cette prière Notre Père, mais on a vu dans ces derniers temps chaque aspect de cette prière, et on va regarder aujourd'hui un peu justement les quelques types de prières qu'on voit dans cette prière. Mais regardons un peu comment est construite cette prière que Jésus a enseignée. C'est vrai que, comme on l'a dit, c'est assez rare qu'on reçoit un cours, lorsque tu deviens membre d'une église, un cours sur la prière. On apprend à travers ce qu'on entend, ce qu'on écoute. Mais souvent, des fois, on apprend mal parce qu'on est souvent axé sur les besoins au lieu d'arriver sur l'adoration. Donc, la première phrase, donc, Notre Père, qui veut dire que c'est pas mon Père. Notre Père veut dire que nous avons justement cette possibilité de cette prière collective. Il veut que nous puissions faire cette prière aussi ensemble. Ensemble, Notre Père. La phrase qui est aux cieux, il faut comprendre donc sa puissance. Donc, Dieu n'est pas un Dieu terrestre, mais le Dieu du ciel et de la terre. On demande la présence de Dieu, on proclame la gloire, la puissance de Dieu. Voilà pourquoi il dit notre Père qui est aux cieux. Puis la phrase, que ton nom soit sanctifié, tu es relié à l'honneur de Dieu. La gloire de Dieu est venue dans le monde dans la personne de Jésus. Que ton nom soit sanctifié signifie que nous devons prier pour que chacun réponde à Jésus de manière appropriée. De proclamer la sainteté de Dieu, proclamer que seul Dieu est capable de nous changer, nous transformer. Que ton règne vienne est une prière pour le succès de l'Évangile dans le monde. Nous savons que l'Évangile nous a transformés. Nous prions pour que ce règne de Dieu s'étende par l'Évangile jusqu'aux confins de la terre, à travers toute la terre. Nous prions aussi pour que le règne de Dieu vienne sur l'Église, afin que l'Église puisse rayonner pour Jésus. Puis que ta volonté soit faite. Nous voulons que les gens se soumettent joyeusement à Dieu parce qu'ils sont convaincus que Dieu est bon, qu'il règne sur terre comme au ciel, qu'il est tout-puissant, qu'il est encore là pour nous sauver, nous fortifier, nous montrer le chemin de sa volonté. Nous prions aussi que la volonté soit faite. Ça veut dire que nous devons nous soumettre pleinement à cette volonté de Dieu, de se conformer à elle et de la proclamer autour de nous. Puis la dernière fois, nous avons vu justement la suite de la prière à notre Père, qui est par rapport aux trois choses en particulier. On voit dans Matthieu chapitre 6, versets 11 à 13. Prochain dia. Donc, Jésus nous invite à demander trois choses, la nourriture, le pardon et la protection. Ce n'est pas les seules choses que nous pouvons demander à Dieu, mais elles fournissent le modèle de ce que nous devons rechercher en priorité. Donc, la nourriture, Jésus veut que nous comptions sur Dieu au jour. Le Seigneur veut pourvoir à nos besoins élémentaires. Jésus nous demande de prier quotidiennement pour notre pain, pour que nous nous souvenons que le moindre don vient de Dieu. Même si nous sommes dans un pays d'abondance, comme on l'a dit, même si justement quand on va au magasin, au centre d'achat, on n'a pas besoin de il y a tellement de choix devant nous. Mais on doit prier pour dire Seigneur, merci pour ta nourriture. Mais en même temps, il faut aussi prier pour que ce pain quotidien, afin que Dieu puisse aussi le donner aux personnes qui n'en ont pas. Le pardon. Cette demande est au cœur du véritable christianisme. Elle nous rappelle que la paix avec Dieu est toujours le fruit du pardon, jamais de notre réussite. Nos demandes de pardon reposent uniquement sur la vie, la mort, la résurrection de Jésus en notre faveur. Dans cette phrase, on voit justement la demande de pardon envers notre Seigneur Jésus pour nos propres péchés. Hein? Pardonne nos offenses. Mais dans la deuxième partie de la phrase, il y a la démarche de nous envers celui qui nous a fait du tort, celui ou celle qui nous a blessés par des paroles dures, qui nous a fait des actions qui n'étaient pas justes envers nous. On sait comment que le pardon est libérateur. C'est pourquoi que lorsque nous prions, afin que Dieu nous donne la force d'accorder le pardon. Troisième chose, on voit la protection. Nous devons prier avant tout pour que Jésus nous empêche de rentrer en tentation, que de demander pardon lorsque nous sommes tentés, lorsque nous avons péché après la tentation. Souvent, c'est vrai que nous sommes tentés, puis nous tombons dans le péché, puis là, nous demandons pardon. Dieu est plein de grâce pour nous pardonner, mais nous devons avant tout dire, Seigneur, enlève-nous de la tentation. Ne permets pas que je rentre dans la tentation pour ne pas pécher. Plus que nous sommes humbles à reconnaître nos manquements, nos incapacités à contrôler toute notre vie, plus le Seigneur va être capable de nous donner les outils pour résister aux tentations et au diable. Et une grande tentation que l'ennemi utilise dans nos églises est par rapport à la division, les tensions entre frères et sœurs. C'est normal parce que nous sommes des humains. Mais on voit tellement d'églises qui se déchirent, des gens qui partent en pleurant. On a vécu ça même dans notre église il y a bien, bien des années. Depuis la création de cette église, il y a déjà eu trois divisions. À cause justement qu'on a laissé l'ennemi, on n'a pas été capable de discerner, on a laissé l'ennemi, les tensions entre nous ou d'autres choses qui a fait qu'à un moment donné, les gens partent malheureux et que le plan de l'ennemi fonctionne. On a besoin de demander encore la protection sur nos églises afin que l'unité reste et demeure. Prochain diable, donc on voit dans la dernière phrase, dans Matthieu 6, verset 13b, il est dit, car à toi appartiennent le règne et la puissance et la gloire à jamais. On se rappelle à la fin de nos prières que tout ce que nous disons, tout doit être dirigé vers notre Dieu et qui appartient le règne sur la terre comme au ciel. Nous proclamons que le règne de l'Éternel est éternel, que son règne comme le roi des rois est autant sur terre comme au ciel. Nous proclamons à la fin que tout ce que nous avons dit dans nos prières, que Dieu est puissant et qu'il peut tout, que sa puissance agit encore sur ses enfants. Même si les gens ne le reconnaissent pas autour de nous, la puissance de Dieu agit encore aujourd'hui. Amen. Nous proclamons que la gloire de Dieu sur cette terre, sur tout ce que nous faisons en tant que serviteurs du roi des rois, on conserve uniquement la gloire de Dieu. Donc, à la fin de nos prières, nous devons proclamer que tout appartient à Dieu, qu'il est le Tout-Puissant et que toute la gloire lui appartient, et cela pour l'éternité. Jean Calvin, donc, qu'on connaît bien, a dit dans cette dernière phrase de la prière, non seulement réchauffer notre cœur et pousser à rechercher la gloire de Dieu, mais aussi nous rappeler que toutes nos prières n'ont d'autre fondement que Dieu seul. Rappeler, oui, c'est seulement vers Dieu qu'on adresse nos prières. Ce ne sont pas vers un Dieu terrestre, ce n'est pas vers quelqu'un qu'on n'arrive pas à comprendre ou à saisir. C'est vers le Dieu du ciel et de la terre, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui a créé l'humanité. Alors, prochain diable, donc, maintenant, regardons un peu quelques types de prières qu'on voit dans cette prière. Je vous encourage à écrire justement peut-être les références. On va avoir plusieurs textes bibliques parce qu'on veut s'appuyer sur la parole de Dieu par rapport à ce que nous allons dire. Donc, nous avons vu l'adoration qui consiste à chercher Dieu avant sa main, de proclamer, comme on le dit dans la prière Notre Père au verset 10, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, on l'a fait comme ce matin aussi, on a adoré notre Seigneur. On a voulu proclamer notre attachement à notre Seigneur. Donc, la prière d'adoration pose les fondements de notre temps ensemble. Dans nos églises, donc, la prière d'adoration vient généralement en premier à travers la louange ou à travers des prières et comme ça. Et on a besoin aussi que de considérer la personne même de Dieu dans nos prières, pas seulement ce qu'il fait pour nous. On le loue pour ses attributs en tant que Dieu, pour sa sainteté. Dieu, il est Dieu trois fois saint. Pour sa douceur, sa bonté, son amour, sa justice, sa paix, sa joie qu'il nous donne. Tout cela doit comme exprimer notre adoration envers le Seigneur. Donc ça, c'est le premier type que nous avons déjà vu. Le deuxième type de prière, c'est la confession. Comme le mot confession le dit, c'est de confesser nos péchés, nos manquements. C'est de confesser que nous avons besoin de Dieu, de reconnaître dans l'humilité que c'est lui seul qui peut nous sauver et nous donner la vie. Donc, John Oshiwisheka, dans son livre sur la prière, décrit la confession comme suit. Si notre adoration est faite correctement, alors la confession devient le réflexe de nos âmes. Quand nous méditons sur la sainteté et la bonté de Dieu, notre nature pécheresse nous apparaît évidente. Quand nous méditons sur la grâce et le pardon de Dieu en Christ, nous sommes amenés à confesser nos péchés. Donc, dans cette belle phrase, John va dire que si notre adoration se fait correctement, alors la confession va venir automatiquement. Lorsqu'on adore Dieu, lorsqu'on loue le nom du Seigneur, on reconnaît qu'on est petit, on reconnaît qu'on est pécheur, on reconnaît que nous sommes rien. Et c'est à ce moment-là que on va venir devant le trône à genoux et dire, Seigneur, oui, je confesse mes manquements, je confesse mes péchés, parce que c'est en toi que je veux être. Donc nous devons reconnaître cette sainteté de Dieu. On doit reconnaître sa puissance, sa majesté. Et c'est pourquoi que lorsqu'on le fait, on est obligé de regarder à nous. Est-ce que je suis assez juste pour pouvoir louer le nom du Seigneur? En tant qu'humain, non, parce que nous restons des pécheurs, même si nous sommes graciés. Voilà pourquoi qu'on a besoin d'avoir cette prière de confession. Voilà pourquoi qu'on a besoin de dire, oui, je suis un pécheur. Je suis un pécheur. Et on va pouvoir le faire aussi à travers aussi le repas du Seigneur, de pouvoir confesser en dire, Seigneur, c'est vers toi que je veux me tourner. C'est vers toi que je veux encore demander la grâce et le pardon, parce que toi, tu es saint, tu es venu humblement sur cette terre, toi le Fils de Dieu, pour mourir à ma place. Voilà pourquoi que je veux qu'on confesse humblement que j'ai besoin de toi, j'ai besoin d'être guéri, restauré par toi. Alors, trois façons de communautés qui veulent agir selon Dieu, qui veulent avancer dans ce type de confession. John va le dire à travers son livre. La première, c'est une communauté en croissance, une communauté qui veut croître dans la présence de Dieu, qui veut croître dans la vérité de Dieu, qui veut se rassembler pour justement chercher la face de Dieu, vivre selon sa volonté, une communauté qui désire grandir en Jésus, qui désire se conformer à sa volonté. Et justement, ça passe par la confession, ça passe par le repentir en tant que communauté. John va dire que de se repentir ensemble est aussi un grand moteur pour l'évangélisation. Rappelez-vous que dans les réveils, tous les réveils ne commencent pas à l'extérieur, mais commencent dans l'Église, commencent par les chrétiens. Lorsque les chrétiens entendent le vrai message de Jésus, lorsqu'ils l'acceptent, ils sont obligés de se mettre à genoux et de confesser leurs péchés, à commencer à changer leur vie, à changer les comportements dans leur vie. Et à ce moment-là, ce réveil se fait en eux et elle va se propager vers l'extérieur parce que les gens vont voir réellement que ces chrétiens ont été transformés. Alors, ouvrons notre Bible dans le psaume 130. Le psaume 130 est une parfaite illustration de ce cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel. Et on va pouvoir peut-être le reprendre. Vous allez pouvoir peut-être le méditer à travers ce temps que nous allons vivre aussi après avec la louange et aussi avec la Sainte Cène. Le psaume 130 nous dit, du fond de la détresse, je t'appelle, Éternel. Seigneur, écoute-moi, sois attentif à mes supplications. Ô Éternel, si tu retiens nos fautes, ô Seigneur, qui donc subsistera? Verset 4. Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te révère. Moi, je m'attends à l'Éternel. Oui, je m'attends à lui de tout mon être. J'ai foi en sa parole. Je guette le Seigneur bien plus que les guetteurs attendent le matin. Oui, plus que les guetteurs attendent le matin. Verset 7. Ô Israël, place ta foi en l'Éternel, car c'est auprès de lui que l'on trouve l'amour. On trouve auprès de lui une parfaite délivrance, et c'est lui qui délivrera Israël de tous ses péchés. Ce psaume est un très beau psaume, justement, de confession, de supplication devant notre Seigneur, pour nous rappeler que nous devons prier à travers la parole de Dieu. La parole de Dieu est vérité. Et lorsque on lit ce texte, on est comme émerveillé. On voit qu'on a besoin de la grâce de Dieu et un besoin justement de confesser notre Seigneur, de confesser devant notre Seigneur nos manquements, nos péchés. La deuxième communauté, prochain dia, c'est une communauté bienveillante. Comme on l'a vu déjà dans la prière Notre Père, on ne peut pas proclamer le pardon de Dieu si on est avare de notre propre pardon. Une communauté de personnes qui confessent leurs péchés ensemble remémore constamment qu'elle est composée de pécheurs qui ont quotidiennement besoin du pardon de Dieu. L'importance de confesser, même encore ce matin, et on va pouvoir le faire tout à l'heure. Regardez Jacques chapitre 5, verset 16. Confessez vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. C'est vrai que ce texte n'est pas facile à mettre en pratique parce que on veut pas confesser nos péchés devant les autres parce que on sait que les péchés c'est quelque chose de mal, quelque chose qu'on n'a pas bien fait. Mais lorsqu'on a cette humilité de le faire, lorsqu'on croit que ensemble on peut confesser nos péchés, pas pour dire que lui il est pas juste ou plus juste ou moins juste que l'autre, mais pour dire oui, j'ai besoin encore de Dieu. À ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe dans les églises, dans la communauté. Et la dernière phrase de ce verset est très importante. Il est dit, quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Quand un juste prie, il dit pas là juste quand quelqu'un prie, il dit un juste. Donc ça veut dire que Jacques va dire, si vous confessez les péchés les uns les autres, si vous priez les uns pour les autres, alors vous êtes juste parce que vous faites ce que la parole de Dieu demande. Alors vous allez être guéri. Alors la prière a une grande efficacité. Je crois que c'est important de se rappeler de ce texte et surtout de cette dernière phrase. Et la troisième communauté qu'on peut voir lorsqu'on a cet esprit de confession, c'est une communauté humble. La confession nous ramène les pieds sur terre. Nous prenons conscience que nous sommes vraiment au plus bas. Il est impossible d'être condescendant envers quiconque. Lorsqu'on reconnaît que nous sommes petits, faibles, que nous avons besoin de Dieu pour nous relever, nous restaurer, nous réparer. Proverbe chapitre 22, verset 4, vous pouvez le noter. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Ça ne veut pas dire la richesse matérielle, mais la richesse de la vie, c'est-à-dire d'avoir une richesse de paix, une richesse de joie par le Seigneur, une richesse de bonté que Dieu va déverser sur nous de différentes manières. C'est la parole de Dieu, elle est là, elle est vraie. Mais il y a besoin d'avoir ce fruit d'humilité, d'avoir cette crainte de l'Éternel, de honorer Dieu réellement. Comme on a dit, le réveil ne vient pas avant la confession. Une communauté qui s'humilie, qui recherche la face de Dieu. Rappelez-vous, il y a 2 ans, on avait parlé de ce réveil dans cette université Asbury, donc c'est une université méthodiste aux États-Unis, où des jeunes se rassemblaient pour avant les cours et comme ça. Et un jour, normalement, la rencontre dure 1 heure de temps, et ce jour-là, ils ont tellement été pris dans le Seigneur qu'ils ont commencé à confesser leurs péchés. Et la prière n'a pas duré 1 heure, elle a duré 24 heures. Les gens sont restés prostrés, agenouillés devant le Seigneur. Et ça a tellement touché que les gens ont dit, oh, au lieu d'aller au cours, on a besoin. Et ils venaient dans la présence de Dieu. Et ça continuait pendant des journées et des journées. Même à un moment donné, même des gens ont pris l'avion pour aller voir ce qui se passait. Parce qu'ils voulaient vivre ce qu'ils avaient vécu. Alors c'est vrai que peut-être on n'est pas obligé d'aller chercher la présence de Dieu, peut-être d'aller courir, peut-être dans les grands rassemblements. Mais on a besoin, lorsque Dieu vient, le Saint-Esprit vient toucher une communauté, elle reste à genoux, elle reste dans la confession, et Dieu fait des grandes choses, Dieu agit. Et ces jeunes, je crois, même si certains ont dit, ah, ben, le réveil n'a pas continué, oui, peut-être que le réveil n'a pas continué après un certain temps, mais ces jeunes, je suis persuadé que ce qu'ils ont vécu, aujourd'hui, ils peuvent le proclamer, aujourd'hui, leur vie est différente. Et l'on croit que lorsqu'il y a des réveils, Dieu agit en profondeur. Le troisième type justement de prière qu'on voit, donc on a vu l'adoration, la confession, et le troisième, c'est l'action de grâce, la reconnaissance. Lorsque nous avons adoré Dieu comme seul Dieu du ciel et de la terre, que nous avons confessé nos péchés, nos manquements, alors vient ce cri de notre âme de remercier Dieu de tout ce qu'il est pour nous. Le psaume 100 le dit bien, ouvrons notre Bible dans le psaume 100. Le psaume 100 le dit, verset 1. Lance une joyeuse clameur vers l'Éternel, terre entière, servez l'Éternel avec joie, venez avec des acclamations en sa présence. Reconnaissez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui. Son peuple est le troupeau de son pâturage. Verset 4, entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec la louange, célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bienveillance dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. N'est-ce pas beau, un beau psaume que nous pouvons prendre le matin, que nous pouvons prendre dans nos prières. Lorsque nous avons confessé, ben justement, on est tellement dans la joie que Dieu nous a pardonné, lavé nos péchés, on veut simplement louer notre Seigneur. Et on l'a fait dans cette louange ce matin et on va continuer de le faire. Et on peut le faire à la maison aussi. Continuez de le faire à la maison le matin quand vous vous levez, mettez un CD de musique ou sur YouTube et comme ça, vous allez voir comment que lorsque on s'adresse notre louange à notre Seigneur, les choses changent. On regarde plus à nos bobos, on ne regarde plus à nos problèmes, nos besoins, mais on veut simplement adorer notre Dieu et Dieu vient agir. Qu'a fait Salomon lorsqu'il construisit le temple? Il a voulu le dédicacer à Dieu, donc il adresse une prière à Dieu. Donc, ouvrons notre Bible dans En Roi, chapitre 8, verset 28. En Roi, chapitre 8. Donc, Salomon rassemble tout le peuple à Jérusalem pour dédicacer le temple qu'il a construit pour l'honneur de Dieu, pour que Dieu puisse être présent dans le peuple par sa présence dans ce lieu. Donc, en Roi, chapitre 8, verset 28, il dit, Toutefois, Éternel, mon Dieu, veuille être attentif à la prière et à la supplication de ton serviteur et écouter l'appel que je t'adresse à ce jour. Ça, c'est le prochain dia. Donc, après l'action de grâce, donc, le quatrième type de prière, c'est la supplication ou les demandes ou les besoins. Et c'est là qu'on voit justement Salomon qui va supplier, qui va demander des choses précises à son Dieu. Dans Roi 8, verset 28. Toutefois, Éternel, mon Dieu, veuille être attentif à la prière, à la supplication de ton serviteur et écouter l'appel que je t'adresse à ce jour. Puis au verset 30, daigne écouter ma supplication et celle de ton peuple Israël lorsqu'il viendra prier ici, depuis le lieu où tu demeures, depuis le ciel, entends nos prières et veuille pardonner. Je vous encourage à aller lire cette prière, qui est une belle prière que Salomon fait lors de la dédicace. Et vous allez voir plusieurs fois qu'il va utiliser le mot supplication pour demander la grâce de Dieu, pour demander la faveur de Dieu au Dieu trois fois saint, pour les hommes qui vont venir dans le temple adresser leurs supplications, leurs requêtes. Et c'est quoi le résultat de cette prière? Regardez un peu plus loin dans En Roi, chapitre 9, versets 2 et 3. L'Éternel lui apparut une seconde fois, de la même manière qu'il était apparu à Gabaon. Verset 3, il lui dit, J'ai exaucé ta prière et la supplication que tu m'as adressée. Je fais de cet édifice que tu as construit un lieu saint pour établir à jamais ma présence. Je verrai toujours sur lui et j'aurai mon cœur. Voici la réponse de Dieu à la prière de supplication que Salomon va adresser pour lui et pour tout le peuple. Donc Dieu va exaucer nos prières si nous confessons nos péchés et nos manquements. Si nous humilions pour reconnaître sa majesté et sa toute-puissance, si nos supplications, nos requêtes sont tournées vers Dieu et non pour satisfaire notre orgueil ou notre suffisance, alors Dieu va répondre comme il l'a fait pour Salomon. Alors pour terminer, regardons justement ces quatre façons de prier. Il y en a d'autres, on va voir d'autres dans les prochains dimanches. En tant qu'Église, dans nos cultes, on veut prendre, mettre une place aussi pour la prière. Pas simplement pour la prière, pour les besoins des gens. Oui, on va le faire aussi. Mais pour adorer notre Dieu. La prière d'adoration. Seigneur, je recherche ta face. Seigneur, je viens devant toi. Pour confesser nos péchés, nos manquements, la prière de confession. Seigneur, lorsque je suis devant toi, devant le Dieu trois fois saint, je peux me mettre que mettre à genoux et m'humilier. Demander ta grâce et ton pardon. Ensuite, pour rendre grâce et reconnaissant de tout ce qu'il a fait pour nous, tout ce qu'il fait encore pour nous, cette prière d'action de grâce. Seigneur, lorsque je reconnais ma petitesse, lorsque je reconnais que je suis pécheur, que tu m'as pardonné, alors j'ai envie, j'ai à cœur de te louer, j'ai envie de reconnaître ta majesté, ta grandeur. Et par la suite, d'adresser nos supplications, nos requêtes, parce que le Seigneur veut aussi nous écouter et répondre à nos prières. Prières de supplication. Vous regardez dans l'ordre que souvent, généralement, on commence nos prières par la supplication. Mais la prière est avant tout, comme on a dit, une relation avec Dieu où Dieu veut parler. Mais si tout de suite nous nous adressons à Dieu par nos requêtes, nos besoins, Dieu n'est pas capable de nous parler. Il va nous écouter, mais il veut nous parler. Il veut montrer sa majesté, il veut montrer sa gloire. Il veut que nous puissions confesser nos manquements. Il veut que nous puissions reconnaître sa grandeur. Et après avoir cela, la prière du juste, comme dans Jacques 5, la prière juste a une grande efficacité. Alors ce matin, on veut expérimenter cela encore pendant un petit moment. On veut que prendre encore un ou deux chants, puis on veut pouvoir prendre ces quatre façons de prier. Dire Seigneur, oui, j'ai besoin de t'adorer et te louer toi seul, parce que tu m'as sauvé. En ayant ce regard sur le repas du Seigneur, ce rappel de ce que Jésus a fait il y a plus de 2000 ans. Nous sommes ce matin ici à cause de ce sang qui a été versé, à cause que Jésus a lavé nos péchés, à cause que Jésus nous a donné la vie. Il veut que nous nous rappelons pour que nous puissions justement être changés, transformés. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole qui est vérité. Merci pour ce rappel à travers ta prière que tu nous as enseigné, les principes qui sont là. Ces principes où on a besoin de t'adorer toi seul, de reconnaître ta majesté, de reconnaître ta sainteté, de sanctifier ton nom. Aide-nous, Seigneur, à avoir ce cœur à rechercher ta face, à te louer toi seul. Aide-nous aussi à avoir cette prière de confession, de demander de pardon devant toi, mais aussi, Seigneur, aide-nous à, si on voit, Seigneur, qu'il y a quelque chose qu'on a contre une personne, ou quelque chose qu'on sait qu'une personne nous a fait du mal, qu'on puisse lui pardonner. Seigneur, tu nous as pardonné, toi, le Fils de Dieu. Nous n'avons pas de raison de ne pas pardonner, Seigneur, à quelqu'un d'autre. Seigneur, nous voulons aussi avoir cette prière d'action de grâce, de reconnaître que tu es tout pour nous. Nous voulons justement aussi avoir cette prière plus tard aussi de supplication. Seigneur, cette supplication de dire, Seigneur, viens nous changer. Viens faire que nous soyons des chrétiens et des chrétiennes, pas juste peut-être le dimanche quand on est rassemblés, mais dans toute la semaine, qu'on puisse être saisi par toi. On te supplie que tu viennes nous changer, que tu viennes laver nos imperfections pour que nous puissions être vraiment des disciples selon ton cœur. Alors merci pour ce que tu vas faire encore aujourd'hui, Seigneur Jésus. Viens, Saint-Esprit, viens. Viens diriger ce moment. Merci, Seigneur Jésus. Merci.